Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
L'Asie du Sud-Est est une des régions du monde sur laquelle il faudra compter à l'avenir, sans conteste. Et son développement économique spectaculaire n'est pas dû aux fruits du hasard, mais peut-être à l'existence de puissantes communautés chinoises. Qu'elles soient en Indonésie, en Thaïlande, à Brunei, elles se sont adaptées, ont innové jusqu'à consolider leur position en devenant des interlocuteurs incontournables sur le plan économique. Ces communautés chinoises représentent la quatrième puissance financière du monde. Une réussite spectaculaire dont la Chine profite aujourd'hui à coup de grands investissements. Du coup, vous ne serez pas surpris si je vous dis que notre invité d'aujourd'hui est un passionné du Sud-Est asiatique. Il s'appelle Pierre Picard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique au Centre d'études, de développement et de recherche sur la diaspora chinoise et la Chine.
Tout à fait.
Et vous êtes également l'auteur d'un livre « L'Empire chinois » publié aux éditions Fabre l'année dernière, livre très documenté et qui a le mérite, je voulais vous le dire, de rendre compte de la singularité de ce peuple en exil au travers d'abord de ses pratiques culturelles mais aussi de son histoire. Et c'est donc d'histoire dont nous allons justement parler maintenant au travers des périodes les plus marquantes. Alors, le peuple chinois est résolument un peuple tourné vers l'extérieur, Pierre Picard.
Oui, tout à fait. C'est d'abord un peuple qui a une expérience migratoire qui est très importante, hein, puisque de par les zones de pauvreté des bandes côtières, pas seulement de la Chine, mais de l'Asie, ce sont des peuples qui ont eu pour habitude de migrer très très tôt, et bien avant 2000 ans de notre ère. Donc on dit même que l'homme de Mango, qui a été retrouvé en Australie, et qui daterait de 70 000 ans, aurait un ancêtre qui ne serait pas polémique, africain, mais en fait chinois. Donc on a des sources anciennes donc de migration chinoise un peu partout, et effectivement donc l'expérience migratoire est bien là en Asie du Sud-Est.
Alors nous allons parler plutôt du 11e siècle avant notre ère, ce qui est déjà pas mal, ouais, il faut clair. Le dire. Et justement, donc, qui nous amène à la dynastie des Tsou. Je ne sais pas si je prononce bien.
Très bien, oui.
En tout cas, elle correspond à peu près à l'époque féodale dans l'histoire chinoise. Mmh. Et il s'agit principalement, manifestement, des membres de la noblesse chinoise qui sont contraintes, en fait, à l'exil. Quelles sont les raisons de leur départ et est-ce que les pays d'Asie du Sud-Est asiatique, d'Asie du Sud-Est, représentent déjà une terre d'exil, Pierre Picard ?
Eh bien, en fait, l'Asie du Sud-Est a toujours été une terre d'asile dans la mesure où elle était, par rapport à la Chine, je dirais un grand ensemble géopolitique d'accueil naturel. Je crois que la Chine et l'Asie du Sud-Est forment véritablement un grand ensemble, encore actuellement avec des organisations comme l'ASEAN. Mais à l'époque, il y avait une attirance naturelle pour aller au-delà de la Chine. Et c'est vrai que la géographie de l'Ouest de la Chine n'encourageait pas tellement d'aller au-delà. Et puis les chaînes montagneuses du Tibet non plus. Donc on allait plus favorablement par les côtes, prendre des bateaux et les chemins de l'exil amenaient naturellement vers l'Asie du Sud-Est. Et en ce qui concerne soit cette dynastie, mais également des commerçants, il est vrai que les rivalités de l'époque, qu'elles soient familiales ou même les rigidités de l'époque au regard du confucianisme, faisaient en sorte que certaines personnes devaient soit se plier, soit partir. Et donc, souvent, choisissaient le départ. Et c'est ainsi qu'on a vu les communautés d'origine chinoise ou chinoise qui partaient au fur et à mesure et qui confortaient les premières implantations précédentes.
Alors justement, vous parliez de Confucius. Mencius et Zongzi, qui sont en fait deux empereurs des dynasties. Mmh. King, c'est ça ?
King, oui, tout à fait. Ouais.
Et qui, en fait, ont adopté ces principes, philosophie qui, manifestement, place chacun sur une échelle de valeur, hein, mm-hmm. vous le disiez à l'instant, mm-hmm. et il se trouve que les marchands mm-hmm. sont différemment appréciés, on va dire, par la société chinoise. Comment est-ce qu'on les considère au travers, justement, de ces principes confucéens ?
Justement, c'est tout le côté assez intéressant d'ailleurs de cette époque où effectivement, s'appuyant sur la philosophie de Confucius, on va appuyer en même temps un pouvoir qui va être assez rigide. Et comme à d'autres époques, sur d'autres continents, on n'aimait pas beaucoup les artistes ou les commerçants, eh bien à l'époque, on va considérer que la bonne voie, c'est une voie un peu plus orthodoxe, c'est-à-dire que ce sont la noblesse, donc les gens qui dirigent le pays, et que finalement, au regard des valeurs, les commerçants chinois, pardon, peuvent être quelque part des concurrents, que l'argent ne devrait pas être une valeur qui devrait être mise en avant. Donc, on va établir des contraintes au regard de ces commerçants. Mais les Chinois étant par nature un peuple qui bouge et qui commerce, ces Chinois vont essayer de se plier au régime, mais finalement vont très souvent décider d'aller voir ailleurs et de commercer et donc de fuir les régimes de l'époque.
Alors, est-ce que le développement du commerce maritime joue un rôle justement dans cette implantation dans le sud-est asiatique?
Oui, c'est fondamental, c'est absolument fondamental. Autant les premières migrations dans le sud-est étaient des migrations non pas aléatoires, mais avec, disons, des moyens de navigation plus modestes. Le développement de la marine chinoise, enfin, dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, et puis également les grandes inventions qui sont venues dès cette époque et qui ont aussi permis d'améliorer la navigation d'autres pays, va permettre, avec des soldats, avec des marins, avec des commerçants qui vont suivre, avec des migrants, de se développer considérablement. Et puis, on peut citer à cet égard les conquêtes pacifiques, dont on reparlera peut-être plus tard, mais de l'amiral Zhang He, qui vont aller jusqu'aux côtes de l'Afrique, et on dit peut-être aussi jusqu'aux États-Unis, ça on n'a pas de preuves, mais qui montrent en tout cas que la marine chinoise était non seulement très, très puissante, très développée, elle avait des embarcations très, très importantes et donc pouvait effectivement emmener beaucoup d'hommes, de migrants et les répartir un petit peu, en tout cas principalement au départ en Asie du Sud-Est.
Alors comment justement il y a la route de la jade, je crois, la route aussi oui. de la soie. Que vendent ces commerçants chinois et qu'achètent-ils?
Alors en fait, il y avait, disons, plusieurs routes, mais qui se retrouvaient. Et en fait, l'objectif de ces commerçants, c'est en fait de faire du négoce avec principalement effectivement de faire des échanges sur la base de quelques produits dont le textile, la soie, le thé et le jade qui a toujours été très prisé en Chine. Donc ces voyages vont générer des flux commerciaux assez importants et vont en même temps permettre aux sociétés quelque part de commencer à se rencontrer et d'avoir des échanges grâce à ces commerçants, quoi.
Mais quelle place occupe l'Asie du Sud-Est à ce moment-là dans ces échanges? Est-ce que c'est une plaque tournante? Comment est-ce que vous la qualifierez?
Alors, oui et non. Enfin, d'une part, il y avait effectivement ces fameuses routes commerciales, donc qui arrivaient bien évidemment à certains ports. Et après, il y avait des redistributions d'échanges commerciaux avec les ports de l'Asie du Sud-Est. Et c'est vrai que après, on a eu bien plus tard avec l'arrivée des Occidentaux. Un intérêt qui a été très marqué par justement notamment l'Europe, qui voyait dans cette profusion d'éléments, on va dire exotiques, en tout cas dont ils avaient besoin, la nécessité de s'implanter de gré ou de force en Asie du Sud-Est, voire plus tard en Chine.
On va marquer une courte pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Picard pour parler de la communauté chinoise dans le sud-est asiatique. Il nous parlait à l'instant des grandes routes maritimes qu'empruntaient ces commerçants pour aller vers d'autres horizons. Et moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'était est-ce que on peut dire d'une certaine manière que l'essor du commerce maritime va en quelque sorte consolider les premières colonies dans le sud-est asiatique.
Oui, oui, tout à fait, parce que déjà, comme nous le disions tout à l'heure, les Chinois et les personnes d'origine chinoise, en tout cas implantées en Asie du Sud-Est, vont se montrer très dynamiques parce qu'elles vont bénéficier de l'expérience ancestrale de leurs parents qui étaient commerçants. Et tout de suite, ils vont finalement s'adapter. S'adapter parce qu'en fait, la société chinoise reste sur des acquis qui sont des acquis très adaptatifs, mais également sur des pratiques confucéennes, d'entraide, de confiance, d'investissement. C'est pour ça qu'en fait, on peut dire que les Chinois ont toujours été quelque part très très solidaire, en même temps très très capitaliste, et donc il s'adapte quels que soient les lieux, que ce soit dans les milieux urbains, ruraux, sur des îles. Bon, c'est pas notre sujet, mais dans d'autres pays, ils peuvent s'adapter un peu partout, et quelles que soient les opportunités de territoire, eh bien même en commençant à zéro, avec, on dirait maintenant, un euro ou un yuan, eh bien, effectivement, ils vont se prêter de l'argent, utiliser la tontine, travailler énormément, et puis toujours essayer de poursuivre leur objectif d'une vie meilleure, et d'engager un principe de vie qui sera axé toujours sur la réussite, dans le respect de la hiérarchie, de la famille, de la communauté. Et là, je crois qu'on a au regard de cette histoire et au regard de l'actualité, on a peut-être nous-mêmes et d'autres peuples des leçons, en tout cas on a un regard peut-être à porter pour voir que ce succès n'est pas arrivé n'importe comment.
Alors vous en parliez tout à l'heure, au XVe siècle, la Chine semble vouloir développer plus avant ses activités commerciales. Elle lance plusieurs expéditions maritimes, dites-vous dans votre livre, sous la férule des amiraux Zheng He et Wang He.
Oui.
À quelle nécessité répondent justement ces expéditions? Vous avez répondu en partie tout à l'heure, mais surtout je voulais savoir si ça avait apporté de nouvelles opportunités commerciales et si ça avait en quelque sorte renforcer le développement économique des pays du sud-est asiatique.
Alors, dans le sud-est asiatique, certainement, parce que ces expéditions vont permettre des implantations donc, de migrants chinois qui vont suivre ces implantations. Néanmoins, ce qui est assez remarquable, c'est que contrairement à d'autres empires ou d'autres civilisations, les Chinois ne vont pas créer de comptoirs, ils ne vont pas essayer de conquérir des peuples. Ce sont vraiment des conquêtes de Pacifique. Ils vont même pas, à la limite, en faire grand état au regard de l'honneur de la Chine. Je crois qu'il y a un intérêt naturel à l'époque pour découvrir le monde, ce qui est quand même une page de l'ouverture de la Chine qui va se refermer après. Mais ce n'est pas, d'une façon un peu contradictoire, ce n'est pas un pays conquérant en Asie du Sud-Est. Néanmoins, bien évidemment, des Chinois vont s'établir ici ou là, vont agrandir des communautés et vont montrer surtout des modèles au fur et à mesure de succès, de développement économique, commerciaux au niveau de l'agriculture, de l'économie, puis plus tard bien évidemment des finances, en diversifiant leurs activités et puis finalement en construisant jusqu'à notre époque et même d'une façon assez considérable dans certains pays, de véritables empires financiers, des conglomérats qui seront des conglomérats avec des structures familiales. À tel point que lorsqu'il y aura dans certains pays de l'Asie du Sud-Est des révoltes ou des mouvements nationalistes, eh bien, on va justement désigner comme bouc émissaire des problèmes de ces pays-là, les Chinois. Et dans bon nombre de pays, ces Chinois qui réussissent, certes, peut-être économiquement en développement séparé, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, comme la Thaïlande notamment, ces Chinois vont payer de leur vie par de nombreux massacres des révolutions locales.
Alors, justement, revenons tout de même pour un court instant au XVe siècle et notamment à la présence des Européens. Mmh. Avant de pouvoir parler de la manière dont ces Chinois ont été accueillis dans les différents pays du sud-est asiatique, il semble manifestement que les Européens s'intéressent à cette région économique qui est en plein essor et ils y installent des comptoirs.
Tout à fait.
Hein? Également des relais commerciaux. Quelle est la nature de leurs activités commerciales dans l'océan Indien à ces Européens?
En fait, l'époque, c'était vraiment l'époque de l'ouverture de l'Europe au regard de cette région et l'intérêt pour les marchands européens de ramener justement ces matières exotiques et précieuses qui plaisaient tant en Europe. Donc notamment, on a parlé du tissu, mais il y avait également le thé et tous les produits qui viennent à cette époque de cette région. Et donc l'intérêt, il est vital parce qu'en fait, on trouve de nouveaux produits qu'on ne connaissait pas en Europe. Mais le problème pour les comptoirs qui vont s'installer, ils sont toutes sortes. Il y a d'abord des problèmes géopolitiques, il y a aussi beaucoup de piraterie dans la région. Et puis, il y a aussi un problème de balance commerciale. Donc, c'est ce qui va provoquer un peu plus tard la guerre de l'opium, puisqu'en fait, les Occidentaux n'arrivent pas à équilibrer leurs comptes, donc il faut qu'ils leur fournissent de l'opium. Et là encore, il y a une représentation assez amusante, parce que souvent, lorsque l'on parle à des gens qui n'ont pas une grande connaissance du monde chinois, on parle d'opiomanie en s'imaginant finalement que les Chinois étaient attirés par ce genre de choses, alors qu'en fait, c'est ça a été imposé par l'Europe. Mais donc, pour revenir concrètement sur l'ouverture de l'Europe dans cette région du monde, c'était un moyen, bien évidemment, de s'ouvrir à des produits nouveaux qui intéressaient donc les habitants d'Europe.
Et alors, est-ce que justement les Chinois vont être concurrencés dans leurs activités par les Européens ou pas du tout ?
Concurrencer de quelle façon ?
C'est-à-dire, est-ce que les Européens vont développer les mêmes secteurs d'activité, c'est-à-dire vont peut-être empiéter sur le commerce, notamment en termes de produits, sur les pratiques des Chinois, enfin telles que le pratiquent les Chinois, ou alors est-ce que les Européens vont respecter, cohabiter justement avec ces commerçants chinois du sud-est asiatique ?
Alors je dirais ni un ni l'autre. Enfin, en fait, je pense qu'ils en sont installés plus quand même par la force, hein, que ce soit les Néerlandais ou d'autres peuples, ou les Portugais ou d'autres peuples d'Europe. Concurrencer, je pense qu'à l'époque, ça ne les intéressait pas trop. C'est quand même une logique où on arrive pour faire des affaires, négocier, faire travailler les gens, et puis charger des bateaux, éventuellement charger des coulisses, charger des produits, et voilà.
Alors justement, vous parliez des coulisses, ça me permet de faire une bonne transition, puisque finalement, j'ai l'impression que cet essor commercial des Chinois d'outre-mer devient tel à un certain moment qu'il paraît nécessaire de faire venir de la main-d'œuvre directement de Chine. Comment sont enrôlés justement ces coulis et à quelle tâche sont-ils affectés dans les pays du sud-est asiatique, sachant que les Anglais, comme les autorités chinoises, vont se prêter en fait à la traite des coulis?
Oui, tout à fait. Il y aura d'ailleurs des partenariats, je dirais, au niveau des nations et au niveau des régions. Le peuple chinois vivait vraiment dans la misère. Et les pauvres Chinois, les pauvres coulis qui étaient embauchés ou enrôlés de force ou embauchés avec des promesses ne comprenaient finalement globalement pas trop ce qui se passait. En fait, c'était des mafias de l'époque.
Qu'est-ce qu'on leur disait alors pour les persuader de partir ?
Écoutez, il y avait différents moyens qui sont pour certains très radicaux. Il y avait, comme pour la traite des Noirs, il y avait des rapts de personnes, il y avait des arrestations. Et puis pour d'autres qui étaient peut-être plus jeunes, plus vigoureux ou dans d'autres occasions, il y avait des promesses de contrats fabuleux et les Chinois ne sachant pas lire ou écrire, ils devaient mettre une croix sur un document où on leur promettait un monde meilleur. Donc c'est ainsi qu'ils ont été répartis non seulement en Asie du Sud-Est mais dans le monde entier et que pour ceux qui ont survécu, car quand même bon nombre ont survécu, c'est vrai que là après ils ont essayé toujours de se regrouper et de réussir comme ils l'ont montré dans le monde entier. Et c'est là où justement la représentation de la Chine et du monde chinois a changé, parce que autant auparavant on avait au regard des missionnaires qui revenaient de Chine à l'époque de Louis XIV, une image un peu idéalisée et magnifiée de la Chine, dont certains philosophes d'ailleurs se sont servis à l'époque de la Révolution, non pas pour contrer le roi d'ailleurs, mais plutôt pour contrer la religion, et donc montrer ainsi qu'il y avait d'autres modèles qui étaient mieux que chez nous, ce qui était un moyen élégant de ne pas mettre en opposition directe avec les autorités religieuses de l'époque. On a là en tout cas un changement radical d'image et de représentation au regard des coulis, puisqu'en fait, il va y avoir finalement quelque part des campagnes de presse où on va représenter non plus cet empire comme un empire extraordinaire, où les mœurs sont agréables, où l'empereur est tout à fait attentionné au regard de ces sujets, mais où finalement on représente le jaune comme étant corvéable à merci. Et à partir de là, donc, on a des représentations qui sont totalement négatives avec le péril jaune, la horde jaune qui existe encore aujourd'hui dans l'esprit de nos contemporains.
D'ailleurs, vous dites dans votre livre que le sort des coulis s'améliore au fil du temps, hein, je crois.
C'est clair, oui.
Voilà, vous dites également que finalement, ils deviennent des intermédiaires entre les Occidentaux et la population locale des pays d'Asie du Sud-Est. Justement, par quel biais ? Quelle est leur fonction ?
En fait, la fonction des Chinois a souvent été une fonction commerciale et économique. ils sont plus ou moins bien intégrés, plus ou moins bien intégrés selon les pays d'accueil. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Asie, quand même une zone qui est relativement proche de la Chine, les Chinois sont quand même un peu mieux dilués à la population locale que dans le reste du monde. Ne serait-ce que par le fait de parler la langue du pays, d'avoir des mariages mixtes. Et puis, mais ce qu'ils ont apporté surtout, c'est un exemple de développement économique, mais qui n'a pas toujours d'ailleurs été suivi par les populations asiatiques, locales ou par les gouvernements. À tel point que, enfin, on le disait tout à l'heure, ça a créé des rivalités. Les Chinois sont devenus... ces Chinois-là, en Asie du Sud-Est, sont devenus des leaders dans de nombreux domaines, l'immobilier, le commerce, etc. Et après, ils devenaient en fait des... Ce n'était plus tellement les gouvernements locaux, mais c'était les Chinois qui devenaient, dans un rapport de force un peu étrange et bizarre, des intermédiaires avec les comptoirs économiques occidentaux et européens, avec... toute l'ambiguïté que cela peut représenter.
On vous quitte pour quelques instants.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie. On retrouve Jessica Baudet.
Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Picard, auteur du livre « L'Empire chinois » aux éditions Favre et qui nous parle aujourd'hui, bien entendu, de la diaspora chinoise dans les pays du sud-est asiatique. À l'instant, nous parlions des coulis et puis du sort plus heureux qui leur était réservé à la suite des déplacements qu'ils avaient subis parfois de force. Et à votre avis, la présence française se précise en Indochine au début du 19e siècle, mm-hmm. Pierre Picard.
Oui.
Est-ce que ça modifie le monopole commercial de ces Chinois d'outre-mer ?
Oui et non. Les Chinois ont toujours été très pragmatiques et très, je dirais, un petit peu comme le roseau, quoi. Ils se plient, mais ils ne rompent pas. Je crois que c'est une de leurs particularités où ils savent... non pas se cacher, mais disons un petit peu se rétracter pendant un moment donné et toujours être solidaire. Alors comme ils ont l'habitude, comme ils ont déjà des réseaux familiaux pratiquement dans le monde entier, comme ils ont des stratégies de solidarité très, très fortes qui sont basées sur le communautarisme, la confiance et puis également on parlait de l'esprit religieux ou philosophique lié au confucianisme, ces Chinois vont donc généralement continuer à travailler d'une façon très performante. On ne peut pas dire en ignorant donc les Français ou les autres États qui s'installent dans ces pays-là. Mais globalement, en dehors des zones où les Français sont installés notamment, les Chinois vont continuer à travailler et essayer d'être... Alors, j'aime pas beaucoup le mot, pas manipulateur, mais en tout cas, ils vont essayer de s'adapter aux circonstances géopolitiques de l'époque.
Est-ce que c'est pareil pour, par exemple, les Anglais qui s'installent à Singapour ? Est-ce que le rapport est le même ? Est-ce que les Chinois vont continuer de s'adapter ou est-ce que, au contraire, les Anglais vont leur interdire peut-être l'exercice de certaines activités commerciales ?
Oui, c'est clair qu'à notamment à Singapour, ça va être un peu plus difficile. Notamment au niveau d'interdictions qui sont faites au niveau de la langue. Je pense que les Anglais ont été un peu plus durs dans leur façon de procéder. Mais néanmoins, l'histoire nous a montré que les Chinois ont réussi à reprendre le dessus.
Alors, parmi ces Chinois exilés dans le sud-est asiatique, on trouve aujourd'hui différentes ethnies, comme les Hakkas, je ne sais pas si je prononce
oui,
bien,
c'est très bien ouais.
Dont vous dites qu'ils sont, je vous cite, une diaspora dans la diaspora. Alors, qui sont-ils et comment est-ce que vous les caractériseriez ?
Bon, les Léaka dans la diaspora chinoise, en fait, c'est vrai qu'il faut parler des filières géodialectales et qu'il faut parler des clans chez les Chinois, même si maintenant on a l'impression d'avoir un peuple unifié. En fait, c'est clair que les Chinois fonctionnent avec des hiérarchies dont je dirais l'État, peut-être l'entreprise, la famille, mais il y a également l'ethnie et puis il y a également la région qui est liée, enfin, en tout cas qui est souvent liée. Et ce qui est valable pour les Hakka est valable pour d'autres ethnies. Elles forment des réseaux de solidarité qui sont prédominants. Et après, disons, cette solidarité clanique ou ethnique entre notamment pour les Hakka, on aura éventuellement d'autres solidarités avec d'autres Chinois, mais déjà, on va déjà commercer et céder entre ethnies.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'il est défini, par exemple, par rapport aux Okiens qui constituent une autre ethnie en exil, si on peut dire les choses comme ça. Qu'est-ce qui les définit, qu'est-ce qui les distingue?
Moi, je pense qu'on peut dire que les Hakka sont peut-être plus... Encore plus, ils sont commerçants, ils sont terriblement commerçants, je dirais presque hargneux dans le commerce, quoi, mais ils sont aussi très, très secrets, quoi. On a du mal à les aborder, à parler avec eux, et même dans le monde chinois.
Et ce qui n'est pas le cas des Hokkien, alors?
Ce qui est beaucoup moins le cas des Hokkien, oui.
D'accord. Alors, ces Chinois pèsent considérablement dans l'économie de certains pays du sud-est asiatique. Mmh. Alors, si on devait donner des exemples, parce qu'on ne peut pas citer tous les pays, admettons Singapour et l'Indonésie,
Là, c'est clair.
Quel est leur poids?
Là, c'est clair.
Économique.
À Singapour et à l'Indonésie, on peut prendre le cas de Singapour. Ils sont, ce qui est quand même assez important, ils sont présents partout. Ils sont complètement, pas majoritaires, mais... ils sont même au niveau du pouvoir paniquement culturel ou économique, mais ils sont également dans le gouvernement. Donc là, on voit bien que l'empire chinois, notamment à Singapour, mais dans l'autre pays que vous citiez, a réussi à s'implanter non seulement économiquement, mais également politiquement.
Alors, pourtant, ces Chinois n'ont pas toujours été... accueillis favorablement.
Pas du tout.
C'est vrai qu'en particulier, on peut citer quand même le Laos et le Vietnam.
C'est clair.
Pour quelle raison, Pierre Picard?
Alors là, c'est je pense que c'est peut-être des problèmes de rivalité entre les pays. Il y a souvent eu quand même des vis-à-vis du Laos, entre le Laos, le Vietnam et la Chine, des conflits qui furent nombreux et dont certains furent encore assez récents. Peut-être que ces peuples se différencient quand même par des cultures légèrement différentes et tiennent à leur identité culturelle. Donc les Chinois étaient un peu moins bien vus. Et on l'a vu dernièrement, effectivement, il y a eu des problèmes d'intégration des Chinois. Et beaucoup de Chinois qui étaient implantés dans ces pays ont perdu énormément, énormément de... ont perdu d'ailleurs tout, leur entreprise, leur maison, etc. Et même si aujourd'hui, il y a un appel au secours un petit peu à la diaspora chinoise. Bon, puis les choses vont s'arranger certainement avec dans l'objectif annoncé de la construction d'un grand marché commun avec l'ASEAN qui va représenter 2 milliards de personnes. Bon, même si les choses évoluent, c'est vrai qu'elles n'auront pas été faciles, particulièrement pour ces deux pays-là où les Chinois n'étaient pas bien acceptés. Alors, je pense que c'est une raison culturelle des différences de vie.
Mais il y avait aussi, je crois, pour ces pays, une volonté de casser le monopole commercial de ces Chinois qui,
oui, bien sûr,
pour le coup, réussissaient quand même considérablement.
C'est clair, c'est clair. Il y avait un esprit concurrentiel très, très évident.
Alors la Thaïlande offre un contre-exemple intéressant, puisque après avoir été victime des poussées xénophobes des nationalistes thaïs, les Chinois d'outre-mer sont parfaitement intégrés. En tout cas, c'est ce que vous dites. Voilà, comment expliquer ce revirement de situation?
Alors, justement, il y a des pays comme ça qui sont étonnants. Alors, moi, je pense également que là aussi, il y a d'un côté, là, comment dire, je dirais oui, il y a le côté chinois, puis il y a le côté thaï aussi. Et je crois que c'est une bonne osmose. Je crois que les thaïs ont montré un esprit d'ouverture et de tolérance qu'ils ont toujours. au regard d'autres cultures qui étaient peut-être un peu plus concurrentielles, comme vous le disiez fort justement. Et les Chinois ont profité de cette opportunité où, a priori, ils se sentaient bien pour complètement s'insérer, s'intégrer dans la société Thaï. Et actuellement, même on a du mal à voir la différence entre un Chinois et un Thaï parce que depuis de nombreuses générations, il y a eu des mariages et les Chinois se sont bien intégrés, donc par leur mérite, mais également par le mérite des Thaï qui les ont bien accueillis.
Alors je crois aussi que c'était le cas au Cambodge. Je crois qu'avec, oui, même sous le régime des Khmer, me semble-t-il, il y avait de bonnes relations, enfin des choses communes, une culture à partager entre les Cambodgiens et les Chinois.
Canal Académie.
Que serait la Chine sans la diaspora chinoise? C'est une question qu'on peut tous légitimement se poser.
Oui, je crois que c'est un élément remarquable de l'émergence de la Chine moderne, celle qu'on aperçoit aujourd'hui. Car après le fameux « Enrichissez-vous » de Deng Xiaoping à la mort de Mao Zedong, il est clair que d'ores et déjà, il est clair que d'ores et déjà, on avait peut-être par Taïwan, peut-être par des différents relais, en tout cas par des filières géodialectales, on avait de toute façon, même la Chine étant fermée, les Chinois d'outre-mer ont toujours réussi quelque part à faire de la résistance, je dirais, et à faire passer, sinon leurs idées, en tout cas peut-être par notion de respect pour les ancêtres ou pour le village, pour la famille, ils ont toujours réussi à faire passer, disons, des moyens financiers qui permettaient à ces zones, en tout cas, de se développer. Et même si, vu de la capitale chinoise, on ne percevait pas tellement cela comme des phénomènes disons, de Russie, puisque la diaspora chinoise était globalement suspectée de beaucoup de pensées qui étaient jugées comme étant contraires ou négatives au communisme chinois. C'est vraiment cette diaspora chinoise qui a permis, qui s'est dynamisée, qui était, je dirais, vraiment isolée, d'une part parce qu'elle était éloignée de la mère patrie, parce que il y avait une fracture géopolitique importante, et ces gens devaient être en même temps, tout en étant exilés sur d'autres terres, ils devaient être solidaires. Mais néanmoins, investissant dans leur région d'origine et avec succès, ces petites régions ont tout de suite développé, notamment dans le sud-est de la Chine, des régions qui sont développées plus rapidement. Et je crois que le regard de Deng Xiaoping à cette époque et des dirigeants chinois a été de dire, mais oui, bon, finalement, on va y aller prudemment, mais on va quand même
en profiter.
On va quand même en profiter, et puis peut-être faire quelques tests, ouvrir quelques zones qui seront un peu des tests, hein, pour voir si ça fonctionne, l'économie libérale dans un monde communiste, pourquoi pas, après tout, hein, l'enjeu n'était pas grand et le pouvoir était bien fort. Et puis ça a tellement bien marché que finalement on est arrivé à une économie maintenant complètement libérale, mais c'est vraiment grâce à cet empire invisible qui est le plus nombreux et le plus riche de la planète qu'aujourd'hui, je dirais, la Chine et la diaspora chinoise réunies ont pu réussir, mais c'est véritablement grâce à la diaspora chinoise.
Alors, je crois que le chiffre d'affaires, hein, de la diaspora était évalué à 100 milliards de dollars, c'est ça ?
Oui, approximativement.
Hein, ce qui est énorme.
C'est absolument fabuleux.
Alors, par quel biais, justement, transite cet argent jusqu'en Chine ?
Alors, voilà, les choses changent, hein, parce qu'effectivement, si auparavant, au niveau de la microéconomie familiale, on parlait de tontines, d'aide solidaire et autres, la plupart des fonds passaient généralement par Singapour, Hong Kong ou Taïwan. Bon, maintenant que les choses s'arrangent en matière d'évolution des droits en Chine, notamment la reconnaissance de la propriété privée,
oui,
la reconnaissance des capitaux étrangers, y compris en provenance de Taïwan. J'ai même appris récemment des liaisons régulières entre le Taïwan et la Chine. Donc les choses semblent s'arranger. Ce que j'annonçais d'ailleurs il y a 5 ans aux grandes dames des représentants politiques de Taïwan ou de Chine qui me recevaient. Donc on s'aperçoit que l'économie, en tout cas entre les différents pays, va s'améliorer, et que la diaspora chinoise qui a investi par l'intermédiaire principalement de Hong Kong, de Taïwan, de Singapour, où il y avait Macao également, a permis en tout cas de permettre de faire rentrer des flux financiers. Bon, maintenant, je pense que les choses vont se pratiquer d'une façon un peu plus normale avec l'évolution de la Chine.
Alors, il y a également des organisations, des associations hein, qui permettent aussi ce...
Oui. Alors bon... Très souvent, d'ailleurs, ça me permet de parler un petit peu du mythe, non pas pour détourner, mais du mythe des triades, parce qu'effectivement, la Chine ayant toujours été souvent perçue comme un monde secret, et c'est vrai qu'il l'a été pour bon nombre de gens. En fait, les Chinois ont souvent essayé de se protéger de la xénophobie, et également de se protéger pour trouver leurs propres emplois. Et puis, par leur culture, je crois que les Chinois sont très communautaires, donc très associatifs. Donc, on le voit dans la diaspora chinoise, les structures associatives, professionnelles sont très nombreuses. Donc, par secteur d'activité, alors que l'on soit étudiant, que l'on soit originaire du Guangdong, que l'on représente une particularité ou une autre. Donc, on a une multiplicité de structures associatives chinoises qui se croisent et qui permet, en plus, au-delà des réseaux familiaux qui se constituent, des filières géodialectales, un véritable maillage sur la planète des possibilités de communication culturelle et commerciale des Chinois entre eux.
Alors, dans quel secteur d'activité en Chine, aujourd'hui, ces Chinois de la diaspora investissent ?
Alors, il y a effectivement des changements qui sont assez radicaux avec l'ouverture de la Chine, et principalement depuis une ou deux années, dans la mesure où
son entrée dans l'OMC, c'est ça ?
Déjà, oui, ouais. Hein, donc ouais. L'entrée dans l'OMC. Et puis, on est dans une époque où effectivement la communication réelle, c'est-à-dire le voyage en avion, le développement d'Internet, le fait de pouvoir avoir des flux financiers beaucoup plus importants et beaucoup plus rapides, favorise complètement l'interactivité entre la Chine et la diaspora chinoise. Alors, cette diaspora chinoise, elle investit dans différents secteurs. Ils sont également, comme quelqu'un qui crée une petite entreprise, très, très malléable, et ils vont saisir des occasions. Donc, ça va être, par exemple, l'entreprise Tang, représentée par M. Bumirata Navang, qui va essayer de faire un accord avec Danone et de se lancer, de participer dans le domaine de la bière. Mais bon, ça, c'est encore des anecdotes, puisqu'on voit que maintenant, les Chinois, donc, avec l'appui de la diaspora chinoise américaine qui est très riche, bon, bah, investi, on l'a vu récemment avec Lenovo qui a racheté la partie historique des PC d'IBM, avec donc TLC qui devient leader sur les écrans plats aux États-Unis, avec des entreprises chinoises qui s'implantent dans les pays d'Amérique latine ou même d'Afrique du Nord, mais avec des stratégies commerciales qui sont différentes des États occidentaux. Là encore, on n'a pas une entrée en force ou des contrats comme nous on peut les imaginer. Généralement, les Chinois, même s'ils font la majorité du travail dans un pays, ont un regard, je dirais, plus humaniste et beaucoup plus de respect au regard des pays dans lesquels ils s'installent, même au niveau, je dirais, de l'économie et du politique.
Alors, est-ce que vous pensez justement que ces activités commerciales qui se passent au sein de la communauté chinoise vont réussir peut-être à s'élargir, à s'extérioriser pour passer faire des affaires, par exemple, avec les locaux ? Est-ce que vous pensez que les choses évoluent également dans ce sens-là ?
Alors oui, tout à fait. On le voit... On sort un peu du cadre de l'Asie du Sud-Est, mais on le voit aujourd'hui en France où les activités au départ étaient des activités principalement liées à la restauration, l'épicerie extrême orientale, quand les boat people d'origine chinoise pour la plupart sont arrivés, alors que maintenant ils ont investi dans les secteurs informatiques, de la blanchisserie, de commerce bon, pour les Africains. Puis maintenant, bon, ce sont des gens qui achètent une usine à Bordeaux, qui vont acheter une usine de tomates en Provence, et puis qui vont acheter des bureaux de tabac.
Et qui ont une tendance aussi à faire étudier leurs enfants, puisque les commerçants donnent aussi, je crois, naissance, on va dire, à leurs enfants vont devenir médecins, avocats, ça s'est
voilà,
vu aussi,
voilà.
Ça. Hein, il y a une sacrée adaptabilité, en fait.
C'est clair, tout à fait. En favorisant néanmoins toujours... même si effectivement l'ouverture culturelle de la Chine permet un libre choix aux enfants par un dialogue qui est de plus en plus ouvert entre les parents et les enfants chinois ou de la diaspora chinoise, mais néanmoins on aura une ouverture éducative plus axée sur, je dirais, l'informatique, le commerce, les grandes écoles comme HEC, Sciences Po, pour ce qui nous concerne, ou des universités américaines.
Pierre Picard, ben je vous remercie.
Merci beaucoup.
Cette heure passée en votre présence. Je rappelle aux auditeurs que s'ils désirent en savoir plus, je leur recommande vivement votre livre « L'Empire chinois » publié aux éditions Favre.
Merci.
Canal Académie. Thank you.
Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com. Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
La suite de votre programme dans un instant.